France Inter. Le 18-20. Jérôme Cadet.
On a longtemps appelé ça le petit geste pour la planète. Vous savez, couper l'eau quand on se brosse les dents, éteindre les lumières dans les pièces vides, éviter les bains, préférer les douches. Mais la planète se réchauffe de plus en plus vite et on sait aujourd'hui que ces petits ruisseaux ne suffiront pas à faire de grandes rivières. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, RTE, gestionnaire public du réseau français, nous expliquait la semaine dernière qu'il nous faudrait en 30 ans réduire notre consommation d'énergie de 40%. Et même si nos transports, nos écrans, nos machines deviennent moins gourmands en énergie, cela risque de ne pas suffire. Voilà pourquoi, dans son rapport, RTE utilise pour la première fois le mot de sobriété. La sobriété, moins consommer, moins se déplacer, moins se chauffer. Cette notion est traditionnellement portée par les écologistes. Elle est reprise depuis peu à droite et connaît un succès soudain en cet automne de flambée des prix du pétrole et du gaz. Alors qu'est-ce que la sobriété ? Est-elle conciliable avec la croissance dont on applaudit tous les jours le retour ? Moins voyager, moins acheter ? Est-ce la vie en moins bien ? Doit-on revenir à la lampe à huile, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron ? Si l'on est soi-même prêt, comment convaincre ses proches ? Comment par exemple renoncer à la voiture quand on réside à 30 km de son lieu de travail? On en parle ce soir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et ce téléphone sonne commence avec vous Karine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Saint-Imier dans le département de l'Isère.
Voilà, c'est ça. Alors voilà, mon côté, bon, j'ai acheté par exemple une voiture il y a un petit moment, mais 100 km. Avec un petit moteur, on mange beaucoup moins de viande, on diminue drastiquement les achats de vêtements, on limite vraiment les voyages en avion. Hein. Beaucoup de personnes dans mon entourage, pareil, ont une vraie conscience écolo, la mettent en pratique au quotidien, transport en commun, etc. Alors, quand je lis dans un rapport de l'ONG Transport et Environnement que les émissions de CO2 des jets privés ne cessent d'augmenter et ont augmenté par exemple de 31% de 2005 à 2019, année au cours de laquelle il y a un vol sur 10 qui décolle de France est effectué par jet privé, qui est un mode de transport 10 fois plus polluant qu'un avion digne, je suis excédée en fait. Je suis excédée par l'hypocrisie de la part de nos gouvernements, où les dirigeants participeront par exemple à la COP26. Quand est-ce qu'on va interdire ou largement limiter par exemple ces jets privés, des super riches, quand on demande aux simples citoyens d'adopter un mode de vie sobre énergétiquement. Voilà ma question.
Merci Karine pour cette question, pour cette interpellation. Je vous présente nos deux invités du soir pour vous répondre. Barbara Nicoloso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association Virage Énergie qui aide des communes, des communautés de communes à s'engager dans la transition énergétique. Vous avez publié Petit traité de sobriété énergétique. Avec nous également Valérie Guillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous avez publié Vous comment consommer avec sobriété. Vous avez aussi participé à la rédaction du rapport Penser la sobriété matérielle publié il y a 2 ans par l'ADEME. Que vous inspire l'interpellation à l'instant de Karine ?
Barbara Karine a raison. Alors il y a un vrai lien en fait, hein, entre le niveau de richesse, le niveau de revenu et les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que les 1% des plus riches sur la planète émettent près de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une véritable corrélation entre les modes de vie des plus riches et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il serait bon que finalement les personnes qui ont les comportements les moins vertueux d'un point de vue environnemental aient des comportements plus sobres.
Mais ça n'est pas le cas pour l'instant. Et ça peut décourager les changements de pratiques. Même si Karine nous dit, moi j'ai changé beaucoup de choses, mais ça m'énerve.
Oui, alors en fait, c'est vrai que moi je comprends complètement l'excès de Karine face à ces situations-là. Après, je pense que je pense qu'elle est dans le bon. J'ai envie de dire, elle montre l'exemple et parce que ça a du sens certainement pour Karine. Alors même si on voit des choses injustes, notamment l'exemple qu'elle donne effectivement, quel est aujourd'hui le sens d'avoir un jet privé, quel est aujourd'hui le sens d'aller dans telle planète ou de faire du tourisme spatial, alors que notre planète, elle suffoque. Donc en effet, Karine, moi je comprends l'excès. Maintenant, vous êtes dans le droit chemin et surtout, ça résonne avec des valeurs personnelles très fortes. Et voilà, et je pense qu'elle, voilà, c'est là la solution.
En fait. Soyez en accord avec vos valeurs.
Voilà, exactement.
Et quels que soient les comportements des autres, en fait.
Bah voilà, quels que soient les comportements des autres, et vous allez certainement peut-être essaimer. Alors je dis pas que la personne en jet privé, elle va copier Karine, évidemment, parce qu'on n'est pas dans les mêmes, j'ai envie de dire, univers. Mais effectivement, je pense que voilà, il faut encourager les personnes comme Karine à continuer à réfléchir à sa consommation, à leur consommation, selon leurs vrais besoins, leurs véritables besoins et leurs valeurs.
C'est aussi un argument qu'on entend sur le plan politique. Barbara Nicoloso, dans cette campagne là qui débute pour la présidentielle, on entend les Chinois ils continuent de cramer du charbon, alors pourquoi nous qui avons le nucléaire on ferait des efforts ?
Alors pourquoi les Chinois continuent de cramer du charbon ? C'est pour nous approvisionner en biens matériels. En grande partie. Donc il y a vraiment cette question en fait de responsabilité à la fois historique dans les émissions de gaz à effet de serre. Et là, les pays occidentaux ont une vraie responsabilité. Hein. La première révolution industrielle a commencé au milieu du 18e. Donc là aussi, voilà, c'est certes les Chinois émettent beaucoup aujourd'hui, mais nous on a beaucoup émis pendant plusieurs siècles. Et puis également, prendre vraiment conscience de l'impact de nos modes de vie et de la façon qu'on a de consommer sur le climat.
Ça aussi, c'est évidemment l'un des éléments de ce débat autour de la sobriété. On a aussi des interpellations au standard de France Inter, notamment celle de Guillaume. Pourquoi est-ce que vous parlez de sobriété et non pas de décroissance ? Mmh. Quelle est la différence entre les deux termes ?
La sobriété, alors bon, c'est vrai qu'on passe souvent la question.
Valérie Guillard.
Alors si déjà. Dans ce que porte le mot, la sobriété, on est d'accord que c'est moins et mieux consommer. Et une consommation en accord d'un besoin. Donc c'est assez une posture individuelle, personnelle. La décroissance, elle a quand même une connotation politique, dans l'espace public. Après, j'ai envie de dire, les deux finalement sont jumelles, les deux notions sont jumelles, et finalement quand on parle de décroissance de quoi ? Est-ce que c'est la croissance économique ? Est-ce que c'est la décroissance justement des émissions de carbone ? Voilà, de quoi parle-t-on finalement ? Parce que vu comme ça, les deux notions sont très contiguë et très jumelle en fait.
Mais ça veut dire que quand on plaide pour la sobriété, on va forcément vers la décroissance, Barbara Nicoloso ?
Alors ça dépend ce qu'on entend par décroissance. La décroissance des maladies environnementales, de la pollution, l'augmentation de la qualité de vie, on a tout ça aussi derrière la sobriété. La sobriété, c'est une démarche volontaire et organisée de réduction des consommations d'énergie et des consommations de matières premières. Il y a une connotation politique aussi derrière la sobriété. Il y a un vrai projet de société à défendre qui va à l'encontre du modèle dominant à l'heure actuelle qui repose sur une surconsommation des ressources avec les impacts environnementaux et sociaux qu'on connaît. Et du coup, il y a un vrai enjeu aussi à montrer comment la sobriété peut être un gisement de création d'emplois, de rebond économique et aussi de création de solidarité, de convivialité.
C'est pas parce qu'on va tous vers la sobriété que le taux de chômage va exploser. Et ça, il faut le faire comprendre. C'est ce que vous défendez, Barbara Nicoloso. Bonsoir, Alain.
Bonsoir. Écoutez, moi, je vais donner que mon expérience et puis ce que je pense. Hein. En fait, nous, à la maison, on baisse le chauffage depuis très longtemps. On n'a pas entendu. On a le chauffage entre 17 et 19 degrés. Mmh. Moi-même, je me douche à l'eau froide.
Jamais de douche chaude, Alain.
Jamais. Et ça fait des années. On va aux AMAP. On fait très attention. Mais je pose la question que je me pose, c'est que c'est bien de faire en sorte que nos concitoyens d'expliquer ce qu'il faut faire à nos concitoyens. Mais les plus responsables, je crois qu'ils font les désigner quand même. Ce sont à la fois les compagnies pétrolières, mais pas que, qui polluent et de loin beaucoup plus que nos concitoyens. C'est aussi ce système qui nous incite par la communication, la publicité, d'autres choses à consommer, et y compris de consommer des fois des choses. Moi, j'ai un téléphone, pour pas citer un iPhone Apple, si je me sers de 10% ce qu'il sait faire, c'est tout ce que je me sers. Et dans ce téléphone, il y a des terres rares. Je pense que il faut revoir cette société de consommation. Sinon, on pourra toujours culpabiliser nos concitoyens. Sinon, à terme, malheureusement, ça peut être la fin de l'être humain sur Terre. Je pèse mes mots quand je dis ça, mais quand on voit la chaleur, quand on voit les pays, on parle souvent de... J'entends parler des gens, oui, les Noirs, les Arabes, ils viennent, mais si nous habitions dans leur pays, on ferait quoi?
Merci pour votre interpellation ce soir, Alain. Vous nous appeliez de l'Oise, Valérie Guillard. La question d'Alain, elle recoupe un petit peu celle de Karine tout à l'heure. On nous culpabilise, mais que font les entreprises, par exemple?
Oui, c'est une excellente question et merci pour ce témoignage. Que font les entreprises? Les entreprises, elles produisent aussi ce qu'on veut bien acheter. Alors, je ne vais pas dire que c'est la responsabilité du consommateur, que la responsabilité du consommateur. Mais le consommateur, il a aussi le choix d'acheter ou pas. Alain parlait justement du téléphone portable, c'est un excellent exemple.
Beaucoup de questions et beaucoup de remarques sur le téléphone portable. Je vous redonne la parole dans un instant. Mais Guylaine qui nous dit d'ici mi-novembre, mon smartphone d'une marque bien connue, numéro 6, ne sera plus compatible avec la nouvelle version de WhatsApp. Quid de l'obsolescence programmée? La sobriété énergétique dépend de notre consommation de tous les jours, de la durée de vie des objets du quotidien. C'est Patrice qui nous écrit.
Oui, effectivement. Alors, pareil, il faut pas peut-être mélanger les deux. Il y a l'obsolescence programmée, elle existe, il faut pas la nier. Après, il y a quand même une obsolescence, et je pense qu'il faut quand même, entre guillemets, en être conscient, c'est l'obsolescence esthétique. Combien de personnes renouvellent tous les 18 mois leur téléphone portable? Juste parce qu'effectivement, il ralentit un peu, alors c'est très désagréable, mais voilà, on peut quand même encore garder son téléphone encore un peu plus longtemps. Donc, par rapport à ce que disait Alain, je pense que le problème n'est pas tant le fait d'avoir un téléphone portable, effectivement, qui a aujourd'hui une utilité, certes, mais c'est aussi le renouveler très rapidement et très souvent.
Vous n'êtes pas obligé de renouveler votre téléphone portable et d'attendre que les marques et les fabricants pousse sa durée de vie un petit peu.
Exactement. Et puis et c'est vrai que ce que disait Alain, voilà, effectivement l'objectif c'est pas de se culpabiliser dès qu'on consomme quelque chose parce que j'ai envie de dire on va aujourd'hui la sobriété c'est elle est discutée dans l'espace public. L'idée c'est que ça devienne un projet de société et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura pourquoi pas des publicités sobres ou une façon sobre de faire de la publicité et de ne pas toujours nous montrer des choses qu'on n'a pas et d'éveiller nos désirs, mais de faire des choses effectivement qui sont vraiment sur des besoins, sur du moins et du mieux.
Barbara Nicoloso, pour reprendre ce que nous disait Alain à l'instant, il parlait de culpabiliser. Est-ce que ce message, parfois, de la sobriété, il revient à faire de nous des coupables? Et lorsqu'on va faire nos courses, on se dit « mais je ne devrais pas faire ça, en fait, je ne devrais pas acheter ci, je ne devrais pas acheter ça ».
Alors, il faut bien rappeler que l'individu n'est pas une île. On vit dans une société. Il y a des normes, des réglementations, des choses qui nous sont plus ou moins imposées. Il y a un aménagement du territoire, il y a un temps de travail, il y a un système économique qui fait qu'on va avoir des comportements individuels plus ou moins énergivores, plus ou moins bons ou mauvais pour le climat. Et donc ce côté de culpabilisation individuelle, moi, me pose problème parce qu'on met un peu sous le tapis en fait la dimension collective de notre société, des politiques publiques qui la régit, et puis également du rôle des entreprises. Donc pour moi, certes, oui, l'individu est important dans la réponse à l'urgence climatique, mais l'individu ne peut pas tout. Et il faut également prendre en compte le cadre supérieur qui régit nos vies.
Benoît nous appelle d'Avignon. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir. Benoît de l'association Rénoveco. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de sobriété surfacique, parce qu'elle est absente de notre politique.
Qu'est-ce que ça veut dire, Benoît?
Ah ouais, je vous l'explique. Et c'est aussi absent des deux scénarios de RTE et Négawatt qui viennent de sortir. Alors, c'est quoi la sobriété surfacique? Aujourd'hui, on habite dans 40 mètres carrés par personne. Et d'ici 2050, il faut qu'on divise par deux notre consommation d'énergie domestique. En fait, il y a deux façons de le faire. Soit on double la performance de nos logements, c'est-à-dire on investit massivement dans la rénovation, ou soit on retrouve la sobriété surfacique qu'on avait avant le choc pétrolier, c'est-à-dire on vivait dans 20 mètres carrés par personne. Et en fait, aujourd'hui, les locataires pauvres vivent dans moins de 30 mètres carrés par personne. Comme ils sont locataires, ils ne peuvent pas rénover et ils subissent durement la hausse du prix de l'énergie. Et en fait, si on reconnaissait leur sobriété surfacique, ça serait reconnaître leur effort dans notre lutte commune pour le réchauffement climatique. Et alors nous, à Rénoveco, donc sur le site rénoveco.org, on propose une nouvelle politique tarifaire, plus juste socialement, et qui permet de dégager des fonds pour la rénovation.
Le message est passé, merci Benoît pour cette proposition. Valérie Guillard, ça veut dire inciter à ce que on vive dans des logements plus petits ?
Ça veut dire, oui, inciter à ce qu'on vive dans les logements qui correspondent à nos besoins, encore une fois. Et pas plus petits, forcément. On va pas mettre une famille de 5 personnes dans un logement de 40 mètres carrés. La sobriété, c'est pas se priver, c'est pas revenir sur des... C'est pas une souffrance, c'est pas... Voilà, ça devient un impératif, compte tenu aujourd'hui de la situation dans laquelle écologique dans laquelle on est. Maintenant, encore une fois, il faut que ça revienne à un besoin. Peut-être, effectivement, une personne seule n'a pas besoin d'avoir 100 mètres carrés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans 100 mètres carrés tout seul? En revanche, voilà, il faut que ça soit bien entendu adapté à la taille de la famille pour que ça reste quand même du bien-être.
Barbara Nicoloso, on a une interpellation, une question de Jean-Pierre en Bretagne, qui nous dit « Je pense qu'il est nécessaire de restaurer les anciennes maisons plutôt que de pourrir les nouvelles, je cite Jean-Pierre, avec des lotissements à gogo. La volonté d'avoir sa maison aussi neuve dans un lotissement, elle peut être légitime ?»
Alors, elle peut être légitime. Par contre, elle est totalement incohérente avec l'urgence climatique.
Ça ne passe pas avec la sobriété.
Ça ne passe pas dans le sens où on a toute une série de problématiques environnementales qui sont extrêmement importantes. Quand on parle d'urbanisation, on parle d'artificialisation des sols très rapidement, de préservation de nos terres agricoles qui nous nourrissent et qui par ailleurs constituent des puits de carbone qui vont nous être bien utiles pour l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, ça passe forcément. Ça pose la question de la mutualisation des espaces déjà existants. Est-ce qu'on utilise tout ? Il faudrait regarder les chiffres de la vacance de l'habitat et de la vacance des bureaux en France. Je pense qu'ils sont quand même assez importants. Et puis ensuite, justement, avec la sobriété, c'est réutiliser ces espaces qui ne sont pas utilisés pour éviter de construire du neuf qui va venir grignoter des terres agricoles ou des terrains qui n'ont pas vocation à être urbanisés.
Il ne vous a pas échappé que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a fait une sortie sur la question il y a quelques jours et qu'elle a été reçue avec une volée de bois vert, Valérie Guillard.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut entendre, effectivement. Alors, il y a aussi, moi, je pense qu'il y a plusieurs points ici. Il y a déjà le développement aussi. Alors, tout le monde n'a pas envie d'être dans des habitats collectifs, mais il y a quand même l'habitat collectif, ou du moins de collectiviser certaines pièces d'une maison. Enfin, vous voyez, d'avoir un logement individuel et puis des espaces partagés. Donc ça, déjà, c'est des choses qui se développent tout un peu dans la société.
C'est-à-dire des lotissements d'un nouveau genre ?
Alors, ça peut être des habitations d'un nouveau genre. C'est-à-dire que vous avez votre appartement, mais par contre, il y a en commun une laverie, il y a une pièce en plus si vous avez de la famille à accueillir, etc. Donc ça, ce sont des habitats, des types d'habitations qui évoluent. Après, c'est ce que vous disiez, c'est un rapport à la norme. Et la norme, jusqu'à maintenant, c'était quoi ? C'était avoir sa maison à soi. Et si vous voulez, dans notre imaginaire, on n'a pas du tout cette représentation d'avoir des espaces partagés, des espaces communs, pourquoi pas, des espaces individuels. Peut-être que, justement, il y a un récit à construire sur qu'est-ce qu'habiter dans une société et surtout dans une planète qui s'essouffle.
Question très pratique, que soulevait d'ailleurs Alain à l'instant. Le chauffage, lui, nous disait 17-19 degrés. C'est quoi les préconisations, Barbara Nicoloso ?
Alors, les préconisations de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, sont à 19 degrés. Après, ça veut tout et ça ne veut rien dire, puisque ça dépend de la façon dont votre habitation est isolée. Donc, vous avez une maison qui est extrêmement bien isolée. À 16 degrés, vous vous sentez très bien. Vous pouvez être dans une maison qui est une vraie passoire thermique et à 25 degrés avoir froid. Donc, là aussi, la problématique n'est pas tant sur l'usage du chauffage que sur la qualité du logement.
Pour les douches, douches chaudes, c'est toujours possible dans un scénario de sobriété. Valérie Guillard, vous douchez à l'eau froide ou à l'eau chaude ?
Ah non, là je peux vous dire que ça me rend très de mauvaise humeur de doucher à l'eau froide. Non, et en plus, je pense que c'est pas une bonne image à donner à la sobriété. La sobriété, c'est pas revenir à un temps ancien, c'est pas revenir à l'archaïque, c'est pas plus de plaisir, c'est pas se priver, c'est pas ça la sobriété en fait.
Geneviève, avec nous dans la Drôme. Bonsoir Geneviève.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, écoutez, moi je voulais simplement témoigner de mon cursus personnel. Je suis dans une région qui est très agréable. J'habite dans la Drôme à Dieulefi et je suis dans une sobriété complètement assumée, heureuse et positive. J'habite dans une maison bioclimatique que j'ai fait construire. sur un terrain, voilà. Et puis, j'ai comme projet de mettre une centrale photovoltaïque pour pouvoir alimenter en autoconsommation ma voiture électrique et mon vélo électrique. Voilà, je pense qu'il y a des choses possibles à monter qui sont tout à fait positives sans du tout être punitives, contrairement à ce qu'on pourrait nous reprocher. Et je pense aussi, et ça c'est une volonté très importante, je trouve, qu'il faut élargir notre volonté personnelle, nos choix personnels, à un engagement plus large, un engagement dans la collectivité. Moi, je suis élue à la communauté, à la mairie de Dieulefi et plus largement à la communauté de communes. C'est un choix qui me paraît complètement important de montrer, et en tout cas d'aller plus loin que simplement un choix personnel.
Merci Geneviève pour ce témoignage. Valérie Guillard, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant. Il faut qu'on arrive à faire comprendre que la sobriété, ça peut aussi être du plaisir, et c'est aussi du plaisir.
Oui, exactement. Et merci pour ce témoignage, Geneviève, parce que moi, je trouve que là où ça rentre en écho, c'est que la sobriété, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'on passe pas du jour au lendemain d'une société de consommation qui définit son identité par ce qu'on a, par les possessions, à être sobre. En fait, c'est un cheminement, et certainement Geneviève a construit ce cheminement. Et ce qu'on entend, c'est que voilà, c'est du plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça rentre en écho avec des valeurs personnelles. On trouve du sens à le faire. Et après, voilà, et on peut essaimer ce type de pratique, en fait. Donc, oui.
C'est du plaisir, mais c'est aussi du renoncement, Barbara Nicoloso. Est-ce qu'on peut continuer à partir à l'étranger, en avion, à partir en vacances de la même façon ? Est-ce qu'il y a forcément des choses qu'on ne pourra plus faire, ou pas du tout ?
On va vivre dans un monde qui sera plus du tout le même qu'aujourd'hui. Donc, de toute façon, il faudra qu'on tienne compte des modifications climatiques et environnementales dans nos modes de vie. Ça va venir nous impacter à un moment ou à un autre.
On a l'impression qu'on a du mal à tenir ce discours un peu de vérité. Dire, voilà, il y a des choses auxquelles il faudra renoncer.
Oui. Oui, oui, il y a des choses auxquelles il faudra renoncer. Geneviève est dans une forme de sobriété choisie, et tant mieux pour elle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui sont dans une forme de sobriété subie, de précarité. Des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures de chauffage, qui n'arrivent pas à payer leurs pleins, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un téléphone, un ordinateur. Et l'idée derrière la sobriété, ce n'est pas du tout d'imposer encore plus de contraintes à ces personnes-là, mais vraiment d'avoir un rééquilibrage entre les personnes qui sont en état de surconsommation, d'ébriété énergétique, pour que les personnes qui n'ont pas accès au minimum puissent y avoir accès, mais par contre que les plus riches puissent réduire leur consommation pour pouvoir avoir accès à ce rééquilibrage et cette justice sociale dans cette transition écologique et énergétique.
Oui, baisser le chauffage quand ma famille vit dans une passoire thermique, ça n'a aucun sens, Valérie Guillard, si ce n'est pour payer moins de chauffage parce qu'on n'a pas les moyens de le payer.
Exactement. Oui, non, ça n'a aucun sens. Et puis c'est là où les politiques publiques sont vraiment la bienvenue pour mettre l'accent sur mieux isoler sa maison, par exemple. Là, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur le renoncement. Je pense qu'à tous les niveaux, en fait, on va renoncer. C'est-à-dire que peut-être, excusez-moi, je prends un exemple très trivial, mais peut-être que pour essayer d'économiser, de faire moins de déchets, par exemple, vous allez renoncer à l'eau pétillante, je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est un petit renoncement. Peut-être que vous allez renoncer à,
on va boire de l'eau en bouteille.
Vous voyez, donc il y a des micro-renoncements. Et oui, il faut le dire. Bien entendu, on va changer de société, donc bien entendu qu'il y aura des renoncements. Mais encore une fois, si c'est accompagné par des valeurs et par une redéfinition des normes, eh bien, ce sera effectivement beaucoup moins douloureux, entre guillemets.
Est-ce que vous voyez dans les tendances actuelles de consommation, notamment les consommations de vêtements, qui ont reculé 13% sur les 7 premiers mois de l'année 2021 par rapport à 2019, mais il y a ces salariés qui ont goûté au télétravail pendant la crise Covid et qui maintenant quittent les grandes villes. Il y a plein de signes comme cela qu'on voit depuis quelques mois. Je pense à ça parce que Isabelle nous écrit à l'instant et nous dit « Depuis plus de 2 ans, j'ai choisi de cesser d'acheter vêtements après vêtements. Je me satisfais de nettement moins. Plus de frustration et surtout un salaire qui n'est pas consommé par du futile. » Est-ce qu'il y a une tendance actuelle qui est née aussi avec le Covid qui va vers la sobriété, Barbara Nicoloso ?
Oui, il y a des phénomènes de déconsommation qui ont été observés pendant le Covid. À l'heure actuelle, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas un effet rebond. Et est-ce que les gens ne compensent pas ce qui n'a pas été consommé pendant plusieurs mois en étant dans des situations de, de surconsommation. Donc oui, c'est très bien que le Covid ait permis en tout cas d'avoir un temps pour s'arrêter et réfléchir à nos modes de consommation et à ce qui finalement est un besoin fondamental. Je ne suis pas certaine que renouveler sa garde-robe tous les 18 mois est un besoin fondamental. Mais en tout cas,
on nous incite à le faire à longueur de journée.
Mais c'est une question de récit et d'imaginaire qui nous est véhiculée notamment par la publicité. Il faut consommer parce que consommer, c'est réussir socialement et c'est être heureux. C'est ça le message qu'on nous vend. Et la sobriété va totalement à l'encontre de ce message. Et c'est là aussi que ça coince. C'est que qui a envie de ne pas être heureux et de ne pas réussir socialement. Donc il y a aussi tout ce discours à déconstruire et montrer que la sobriété, ça n'est pas du tout ça. C'est au contraire des gisements de mieux vivre à aller chercher, en partant du constat aussi que la société dans laquelle on vit n'est pas totalement incroyable et qu'il y a aussi beaucoup d'effets néfastes. Et donc c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser au regard de l'urgence climatique aussi.
Valérie Guillard, il y a un mouvement là qui s'est accéléré avec la crise du Covid quand on est resté chez nous confiné pendant plusieurs mois.
Oui, complètement, ça rejoint ce que dit Barbara. Effectivement, là on a quand même eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de voir quel était l'essentiel finalement pour nous. Mais j'ai envie de dire ce que disait Barbara, je suis complètement d'accord, faire attention aussi au report, parce que vous voyez par exemple, il y a des personnes qui consomment moins certains objets mais ils vont passer plus de temps sur leur téléphone portable par exemple, et là on n'est plus tout dans la sobriété numérique. Après, il y a aussi, on voit aussi la consommation d'objets d'occasion. Donc, on se dit, oui, je consomme moins d'objets neufs. Donc, c'est vrai, hein, il y a quand même effectivement beaucoup moins de pollution parce qu'on sait très bien que les objets neufs, c'est quand même ceux qui polluent le plus. Pour autant, on n'a pas cassé cette chaîne par rapport à la consommation. Comme vous le disiez d'ailleurs, pourquoi ? Parce que publicité, parce qu'il y a des plateformes où vous pouvez acheter, vendre toute la journée si vous voulez, d'une façon très simple. Mais quand même, on a amorcé une tendance. Et pourquoi ? Bah, parce qu'aussi dans la société, on parle davantage de sobriété et pas que la sobriété énergétique. On parle effectivement de la déconsommation, on parle effectivement de cela.
Est-ce qu'on en passera forcément par des obligations, par la loi ou par des interdictions, comme c'est le cas dans la construction, par exemple, depuis plusieurs années ? Est-ce qu'à un moment, il faudra interdire de prendre l'avion pour faire plus de 200, 300, 400, 500 kilomètres ? Est-ce qu'à un moment donné, il faudra obliger les entreprises à mettre leurs salariés 2 jours par semaine en télétravail ? Est-ce qu'on va arriver forcément à une obligation dans ce processus, Valérie Guillard ?
Alors, l'obligation, pour moi, elle n'a que... Alors, ce serait dommage, effectivement, d'en arriver là, parce que, normalement, on devrait quand même tous prendre conscience qu'il va falloir agir. En revanche, je pense que l'obligation, elle peut avoir une vertu, c'est le temps. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, on sait que changer des habitudes, changer des pratiques de consommation, changer le rapport à la norme, changer le regard social, là, tous ces changements sont des changements titanesques, puisque depuis, encore une fois, de 40, 50 ans, depuis la société de consommation, on est dans ces logiques-là. Donc si vous voulez aller vite, enfin si vous voulez, si on doit, parce qu'on doit le faire. Donc là, en effet, peut-être que... alors moi, j'aime pas ce mot de punition, etc., mais peut-être qu'on va avoir une carte carbone, on va avoir... une autorisation de dépenser X quantité de CO2 et puis on devra nous-mêmes faire nos arbitrages.
Marc nous appelle de Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Marc.
Bonsoir. Oui, je me permettais de vous appeler pour une petite remarque sur la sobriété. Là, donc, j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire en Normandie. Et plutôt que de prendre la voiture, j'ai décidé de prendre le train. Mais en fait, j'en ai pour 22 euros aller, 22 euros retour. Ça me fait 44 euros le week-end. Alors qu'en voiture, c'est nettement moins cher. J'en ai pas pour 44 euros d'essence. Donc, c'est un peu compliqué finalement de prendre le train. Et j'ai eu la même remarque pour partir au ski l'année dernière, ou il y a quelques années. Et j'en avais pour 800 euros d'aller-retour en train, alors qu'en voiture, ça m'a pas coûté ça du tout. Donc, il faudrait peut-être que les transports publics aussi, la SNCF, nous aide à prendre le train.
Merci Marc pour cette remarque. J'ajoute autre remarque via ce mail. Nous habitons Toulouse et voulions aller à Florence en train, environ 800 km. Il nous faudra 12 heures minimum de trajet avec 3 correspondances à titre prohibitif. Dommage, nous étions prêts à abandonner l'avion. À quand un transport ferré, pratique et abordable ? La question des transports, elle est centrale. Là, c'est les transports loisirs pour Marc et puis ce témoignage à l'instant, mais pour aller bosser, notamment faire ses courses, Barbara Nicoloso.
Oui, tout à fait. La question des infrastructures est tout à fait déterminante. Les gens ne feront pas plus de vélos s'il n'y a pas plus de pistes cyclables. Et tant que l'avion coûtera moins cher que le train, les gens se reporteront sur l'avion tant qu'on pourra prendre l'avion. Donc là, il y a une vraie problématique, notamment de subvention qui est donnée à l'aérien. Le problème, ce n'est pas le train qui coûte trop cher. Le problème, c'est l'aérien qui ne coûte pas assez cher. Enfin, en tout cas, qui n'intègre pas dans le prix des billets d'avion le coût environnemental.
Alors Marc, lui, faisait la comparaison avec sa voiture.
Oui. C'est pareil.
Même raisonnement.
Pareil. C'est le soutien à ces modes de transport et à ces carburants fossiles qui est totalement incohérent, là aussi, avec l'urgence climatique.
Valérie Guillard.
Oui, je voulais juste ajouter un petit point par rapport à ce que disait Barbara. C'est la notion de prix et c'est le rapport au prix. En fait, depuis la société de consommation, on a un faux rapport au prix. On ne sait plus vraiment ce qu'est un prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des promotions. Et comme le disait Barbara, en fait, peut-être le 22 euros... On trouve ça cher, mais si on intègre tous les coûts que ce transport, que le coût d'un transport fait sur l'environnement, il va falloir intégrer ces externalités, ce qu'on appelle les externalités. Donc, il faut faire attention à ce rapport au prix, parce qu'en fait, les consommateurs, parce qu'on n'est pas habitués, et on ne souhaite plus maintenant payer plus cher. Et oui, mais ça risque d'être ce qu'il va falloir faire.
Bah, c'est ce qu'il faut déjà faire pour l'essence, pour le gaz. Mais il y a des millions de Français qui sont prisonniers. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur plein pour aller travailler et la facture, elle augmente. Et ils n'ont pas de solution alternative. Ils ne peuvent pas aller travailler en bus, ne peuvent pas aller travailler en train. Il y a des transports en commun pour certains Français, mais pas pour tous. Mmh. Et eux, en ce moment, ils n'ont aucune solution, Valérie Guillard.
Oui, tout à fait. Et là, vous posez aussi la question des usages. Parce que ce n'est pas la même chose que d'aller prendre sa voiture pour aller au travail, que d'aller prendre sa voiture pour effectivement peut-être aller dans sa maison secondaire sans vouloir être critique évidemment. Donc peut-être que là ça va être définir les usages et d'ailleurs on peut le voir dans n'importe quelle ressource naturelle. C'est comme l'eau, c'est pas la même chose que de prendre l'eau pour boire que pour remplir votre piscine.
Mais on pourrait taxer, pardon du mot, hein, mais quelqu'un ou l'essence pour quelqu'un qui va dans sa maison secondaire que pour quelqu'un qui va au travail, Barbara Nicoloso, c'est envisageable ?
Éventuellement, à un moment on en sera réduit à ça. La question du rationnement en fait. Hein. Mmh. Pourquoi on utilise l'énergie et quel est l'usage? Monsieur a un besoin de déplacement. Le déplacement, il y a plusieurs moyens de le satisfaire. Hein. Ça peut être en voiture, en train. Et ça pose aussi derrière la question de la puissance publique, des pouvoirs publics, des politiques publiques et de l'accès aux infrastructures et aux services publics.
Gilda nous appelle de Pellegrus, c'est dans le département de la Gironde. Bonsoir Gilda.
Bonsoir. Alors moi, je voulais juste vous apporter un témoignage. En introduction, je vous dis que j'ai une belle vie, malgré tout ce qu'on a mis en place chez nous. Il y a 5 ans, nous avons changé de maison. Nous avons une très vieille maison qui est parfaitement bien isolée. On a un chauffage central qui ne fonctionne jamais. On ne l'utilise absolument pas. Donc la température peut baisser à 15-16 degrés sans aucun problème. Nous avons un poêle à peler dans une pièce dans laquelle on peut facilement se mettre. Et sinon, on met des pulls. Et quand on est au lit, on en utilise des méthodes de grand-mère, c'est-à-dire qu'on met des bouillottes dans le lit une heure avant d'aller se coucher. On a des grosses couettes, et donc ça c'est super sympa. Entre autres, je n'ai pas de sèche-linge, je n'ai pas de micro-ondes, enfin j'ai pratiquement aucun appareil électrique. Nous ne prenons pas l'avion. Pour nos courses, nous faisons les courses dans un marché tout près de chez nous, dans lequel nous faisons vivre tout un tas de producteurs locaux, y compris mon lait. Le lait, je l'achète au marché dans une bouteille en verre. J'achète ensuite dans des magasins en vrac, donc j'ai pratiquement pas de déchets d'emballage. J'achète même les boissons, je contrôle bien que toutes les bouteilles soient en verre et non pas en plastique. Nous avons également un potager depuis que nous sommes ici, on est presque en autonomie. En fait, je surveille également d'où viennent mes vêtements. Je n'achète plus aucun vêtement qui ne vient pas d'Europe, par exemple. Mais même pour les fruits et légumes, les avocats, par exemple, je n'achète plus que des avocats d'Italie ou du Portugal. Je fais très attention aux distances.
Merci. Merci Gilda pour ce témoignage, mais c'est pas forcément évident, Barbara Nicoloso, les légumes, c'est pas toujours facile de trouver des légumes qui viennent près de chez soi, et je parle même pas des vêtements, la production textile française, elle est extrêmement faible.
Oui, la question de la sobriété pose très clairement la question de la relocalisation, que ce soit des commerces ou de la production de vêtements textiles ou de l'industrie, ça pose la question du territoire. C'est beaucoup plus simple d'avoir accès à une AMAP quand on est dans la Drôme, et qu'autour de soi on a beaucoup de petits producteurs facilement accessible qu'en plein cœur de Paris. Donc ça pose vraiment ces questions d'approvisionnement, de flux de matières qui entrent et qui sortent du territoire. Et c'est vrai que à l'heure de la mondialisation, on est loin d'être dans un système qui est sobre. Et donc ça suppose d'être aussi réinterrogé.
Et ça suppose de relocaliser une partie de la production. Ça serait beaucoup plus simple, Valérie Guillard.
Oui, oui, tout à fait. Surtout que certains consommateurs sont quand même très attentifs à ce qu'on appelle la slow fashion, c'est-à-dire vraiment la mode durable. C'est-à-dire acheter, prendre conscience des matières qu'on achète, d'où est produit, où sont produits, pardon, les vêtements, avec quelle matière, pour quel usage. Donc en fait, si vous voulez, il y a quand même, c'est très timide parce qu'il y a très peu. Enfin, ce qui est vraiment enthousiasmant aujourd'hui, c'est quand vous voyez des entrepreneurs qui créent des petits, excusez-moi le terme, mais des petites marques justement de vêtements, mais qui sont produits en France avec encore une fois une matière première de qualité.
Même si elles coûtent, ces produits coûtent souvent
oui,
plus cher.
Oui, mais attention, on revient sur la notion du prix et notre rapport au prix.
Merci de l'avoir rappelé, Valérie Guillard, en conclusion de ce téléphone sonne. Je renvoie à vos ouvrages, à toutes les deux. Comment consommer avec sobriété, Valérie Guillard, Barbara Nicoloso, petit traité de sobriété énergétique. Merci d'avoir participé ce soir à ce téléphone sonne.
Merci.